Éthique et science font-elles bon ménage? C'est à cette question qu'a voulu répondre Sarah Aguiton, une étudiante de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle a suivi pendant 6 mois les travaux d'une équipe de chercheurs qui participaient au concours de l'IGEM, où les scientifiques de tous bords conçoivent et construisent des machines génétiques à partir de données génétiques fixes. Recherche fondamentale, mais on voit quelles conséquences pourrait avoir son développement dans les domaines de la biosécurité sur la vie ou sur la standardisation de la biologie. Sarah Aguiton a donc intégré l'équipe de recherche et a voulu savoir quelle était son éthique et souvent rappelé aux chercheurs quels étaient les enjeux. Nous l'écoutons au micro de Noël Fantoni.
Je suis étudiante en sociologie, mais dans une branche de la sociologie qui est un peu particulière, ce qu'on appelle en français, donc je suis au centre Alexandre Coiré, qui est un centre d'histoire et de sociologie des sciences et des techniques. Donc c'est une sociologie qui a pour objet d'études, la science et les scientifiques. Donc l'idée, c'est de concevoir les sciences comme, de ce point de vue sociologique-là, donc comme une activité de production, donc autant de discours, d'expériences, d'instruments, mais aussi une production de vérité et de vision du monde, en fait.
Et leur projet à eux, c'était quoi? Si j'ai bien compris, c'était de synthétiser les gènes.
Alors, la biologie synthétique, ouais, c'est une ingénierie de systèmes vivants artificiels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une activité de design des bactéries à l'échelle du génome pour leur faire remplir une tâche. Donc on va aller inscrire dans le génome une tâche qui sera réalisée par la bactérie.
Alors, votre démarche à vous, c'était une démarche de simple observateur ou vous aviez une démarche pratique, c'est-à-dire vous vous contentiez d'analyser un petit peu leur fonctionnement ou vous étiez partie prenante dans leur démarche à eux?
Alors, j'étais un peu sur les deux terrains, en fait. C'est que moi, j'avais la perspective, à travers ma formation et mon travail de recherche personnelle, d'analyser les types de production qui sont en place dans la biologie synthétique et dans une équipe d'étudiants qui travaillent sur un projet, etc. Mais en même temps, j'y étais aussi pour poser la question de l'éthique, la question des critiques qui peuvent être élaborées, non pas à l'encontre, mais pour enrichir ces pratiques.
Alors, qu'est-ce que c'était les questions éthiques que vous vous posiez et que vous leur posiez à eux, parce que c'était quand même à eux qu'il fallait poser les questions?
Là aussi, ça se passe un peu sur deux terrains. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu vis-à-vis des sciences du vivant telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, qui est une très très grande technicisation des savoirs, en fait. Et moi, c'était très important pour moi qu'ils admettent la légitimité d'un discours critique non scientifique, en fait. Parce que les critiques internes à la science, c'est pas vraiment un problème. Le problème, ça va être les formes de critiques dites citoyennes, dites profanes. Et après, et ça, c'était vraiment important pour moi aussi que ce soit un objet de démarche collective, parce qu'en fait, moi, j'arrivais, j'avais très peu de savoir sur ce champ. Et donc, c'était d'élaborer collectivement une analyse et un regard critique sur les objets de la biologie synthétique, en fait. Donc, dans cette perspective éthique.
Mais quel type de critique leur adressiez-vous?
Vous voulez dire en termes d'objets? Qu'est-ce qu'on a...
Non, plutôt en termes de comportement éthique.
L'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce qui était en jeu dans leur manière de travailler. Par exemple, on a eu une discussion assez intéressante sur la question. Il y a une grande partie de modélisation dans le travail des ingénieurs, des bio-ingénieurs, en fait. Et donc la question, c'était qu'est-ce que cachent les calculs, les courbes? Parce qu'à ce moment-là, en fait, dans le cas de notre projet, par exemple, l'augmentation de la courbe était l'augmentation des facteurs de virulence. L'abstraction mathématique cachait à leurs yeux, mais à leurs yeux, comme aux yeux, enfin, c'est un projet qui est aux yeux de tout le monde, mais cachait complètement une question qui pouvait quand même être une question en jeu, qui était celle de, là, on est en train de proposer un modèle qui augmente la virulence d'une bactérie. Donc c'était ce type de démarche, tout autant que de dire on peut regarder le discours anti-OGM ou les craintes sur les OGM au niveau de la population et de la société, qu'est-ce que vous en pensez et en quoi il faut admettre qu'il y a un certain type de légitimité dans un discours que vous estimez rationnel, irrationnel en fait.
Et eux, ils se posaient ces questions éthiques-là, ou c'est vous qui les avez révélées à leur conscience, je dirais ?
Assez peu, mais en même temps, pas de la part de tous les membres, mais il y avait des gens qui étaient intéressés par cet exercice de réflexivité, en fait, et qui se rendaient compte que, même à travers leur formation académique, c'est quelque chose qui avait pu, d'une part, leur manquer, mais qu'ils étaient capables de refaire une lecture de leur propre formation à l'image, à travers ce type de réflexion, en fait.
Et quels étaient vos rapports avec eux, tendus, intéressés, indifférents ?
C'était une présence quotidienne. Moi, j'étais là quasi quotidiennement pendant les six mois de développement du projet. Donc, c'était un temps, une temporalité assez longue. Alors, j'ai regretté une certaine passivité face à ce type de questions, mais qui, voilà, il y avait des degrés d'engagement et des niveaux d'engagement très différents entre eux et moi. Donc c'était un peu difficile à vivre parfois, et en même temps je pense que c'est des choses qui s'expliquent sans se cautionner, mais qui s'expliquent par le fait qu'ils étaient là pour, dans le cadre d'un concours international, et qu'ils ont hiérarchisé
leurs priorités.
Voilà, ils ont hiérarchisé leurs priorités, et que le projet biologique était pour eux d'une plus grande importance.
Et vous pensez que ce type de démarche va les faire changer, modifier leur comportement ?
Je l'espère en tout cas. C'est le retour d'expérience qu'on a pu avoir pour la plupart d'entre eux. Et je pense que de toute façon, à un moment, se retrouver confronté, et surtout dans cette temporalité un peu longue, à ce type de présence et à ces exercices qu'on faisait de manière hebdomadaire, collective, on se réunissait et on discutait de ces enjeux, c'est quelque chose qui transforme nécessairement les comportements.
Ça a duré combien de temps ?
À quel type de degré, c'est encore une autre question.
Ça a duré combien de temps ?
Alors, de fin juin, début juillet, jusqu'à novembre.
2009 ?
Ouais.
Et à la fin, vous avez remis un mémo ?
À la fin, j'ai écrit un rapport, parce qu'en fait, le cadre du concours de l'IHM, donc il y a un concours de design de ces machines biologiques, qu'on les appelle, est organisé par le MIT, donc aux États-Unis, le Massachusetts Institute of Technology. Et ça se termina en novembre par la rencontre de toutes les équipes participantes à Boston. Et donc moi j'ai écrit un rapport dans le cadre du concours, donc qui a été intégré au travail général de l'équipe. Et ce rapport a remporté le prix Human Practice, donc qui est le prix de cet effort de réflexion, en fait, un peu en dehors des questions biologiques, qui était au MIT, en fait.
Un prix que vous partagez avec des Anglais qui avaient la même démarche que vous ?
Oui, l'équipe anglaise, et j'ai eu l'occasion de discuter avec la sociologue anglaise, et on a eu des échanges très riches sur ces questions, sur nos partages d'expériences, etc. Et j'ai beaucoup apprécié et la qualité de son travail et les échanges humains que j'ai pu avoir avec elle.